À Rencontre spirituelle aujourd'hui, il sera question de Saint-Louis, le roi de France, Saint-Louis IX, qui est né le 25 avril en 1214. Il est mort en 1270 et sa fête est célébrée en plein été le 25 août, ou à la fin de l'été. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. C'est un saint extraordinaire que ce Saint-Louis, un saint absolument phénoménal. Qu'on se rappelle, pour ceux qui sont allés à Paris ou qui ont vu des beaux livres sur Paris ou qui ont vu des films au centre de Paris, là, il y a exactement au cœur de ce qu'on appelle la cité, il y a dans toute sa splendeur la Sainte-Chapelle. Cette Sainte-Chapelle, c'est comme, dirait-on, une espèce d'arche sacrée, bien plus belle que celle de Noé, hein, qui a été faite avec amour. C'est comme une grande châsse. Vous savez, les châsses dans lesquelles on mettait les reliques dans ce temps-là? C'est une châsse précieuse dans laquelle Saint Louis avait fait déposer la Sainte Couronne d'épines qui est conservée aujourd'hui à Notre-Dame, à l'église Notre-Dame à Paris. Et on peut dire que c'est le diadème mystique de Jésus-Christ que l'on voit. D'ailleurs, on en voit les traces de sang sur le Saint-Suaire de Turin, comme je vous l'ai expliqué le Vendredi Saint dans une longue émission consacrée au Saint-Suaire de Turin. Seul un roi, puis un saint roi, pouvait concevoir puis réaliser ce grand chef-d'œuvre qu'est la Sainte-Chapelle. Je vous ai dit que Saint-Louis est né 25 avril 1214, ça veut dire qu'il y a près de 800 ans déjà, aujourd'hui. Il est né à Poissy. Poissy, c'est un petit peu au nord de Versailles. Hein. Versailles, c'est à gauche de Paris, là, sur la carte, et ça, c'est un peu au nord de Versailles. Deux ans plus tôt, en l'an 1212, les musulmans avaient essuyé en Espagne, à Las Navas de Tolosas, une défaite décisive. Et il y avait aussi une grande victoire française à Bouvines, dans le département du Nord aujourd'hui. Ces deux victoires, on peut dire, annonçaient jusqu'à un certain point la naissance de Saint-Louis. Louis IX est donc devenu roi à 12 ans seulement. Mais sa mère, Blanche de Castille, était, paraît-il, une belle femme, fine et énergique. À 20 ans, en 1234, Saint-Louis, ce jeune roi, inaugure son règne personnel, tout en conservant sa mère auprès de lui. Il avait par sa grand-mère, la reine Isabelle, qui était fort belle, acquis lui-même une certaine beauté quand il était jeune. On appelle ça la beauté des princes de la maison de Hainaut. Il y a de ces familles hein, où les gens sont presque tous beaux et belles. C'est surprenant parfois. Il était grand, mince. On dit qu'il avait un air angélique. Il avait des cheveux blonds, une belle chevelure blonde. Et on dit qu'il avait, c'est des vieux textes, des yeux de colombe. Et de bonheur, oui, de bonheur, il est devenu chauve. Il s'est voûté quelque peu, s'est mis à pencher un peu vers l'avant. C'était un homme très religieux, profondément croyant. C'était vraiment un saint. Il y a un messager du comte de Gueldre qui s'était moqué un peu de lui en disant « Ce roi papelard, le cou tort et le capuchon sur l'épaule. Hein? » Il avait l'air d'une sorte de moine un peu défait. D'ailleurs, un jour, on raconte qu'une femme du nom de Sarette, S-A-R-E-2-T-E, quel étrange prénom, qui est pas si laid finalement, Sarette, a interpellé le prince, qui était roi, quoi. Elle lui dit, « Fille, fille, ou si vous voulez, hé, hé, devrais-tu être roi de France? Mieux vaudrait qu'un autre fût roi que toi, car tu n'es roi que des frères mineurs. » Les franciscains, des frères prêcheurs, les dominicains, des prêtres et des clercs, tu n'es que roi d'eux, de ces gens-là. C'est grand dommage que tu sois roi de France, et c'est grand merveille qu'on ne te chasse pas. Elle y allait pas de main morte. Je sais pas si on peut parler comme ça au roi aujourd'hui. Probablement, oui. Les rois. C'est bien fini, les rois, hein? Et le roi Louis a répondu très doucement à Sarette, ce qui est le signe de sa sainteté. Certes, vous dites vrai, madame. Je ne suis pas digne d'être roi. Et il lui fit donner un peu d'argent. Le soir, à minuit, le roi se levait, s'habillait. Pour les matines. Les matines, je vous le rappelle, c'est un office de nuit qui se récite dans les monastères. Certains monastères se lèvent encore la nuit pour réciter ça, comme chez les chartreux. Certains ordres bénédictins, paraît-il, en ont gardé encore. Certains monastères, c'est rare. Les trappistes avaient gardé ça, mais ne se recouchaient pas. Ils se levaient, non pas à minuit, mais à 2 heures de la nuit. Ils ne se recouchaient pas. Alors lui, donc, il s'habille à minuit pour les matines dans sa chapelle. C'était pour lui comme une nuit d'audience à la voix de Dieu. Il prenait ça au sérieux. C'était grave pour lui, bien qu'il était laïque et roi. On le réveillait de nouveau pour prime, l'office de prime qui se récite, comme le mot l'indique, tôt le matin. Il assistait ensuite au moins à une messe basse des défunts. Et ensuite à la messe du jour qui était chantée, donc 2 messes. C'est ce que nous avions à Saint-Benoît-du-Lac quand j'étais novice, 44 à 46, il y avait une messe basse vers 6h15, 6h30. Et la grand-messe qui était célébrée à 9h15, diacre sous diacre, avec encens et tout. Alors, sa journée était rythmée par les autres offices que l'on connaît. Vous connaissez tout ça maintenant, je vous en ai souvent parlé. Tierce, sexte à midi, nonne à 3h de l'après-midi, vêpre en fin d'après-midi, quand l'étoile vespère apparaît dans le ciel, vêpre. Puis les compliques se récitent dans les monastères presque à la noirceur, vers 8h le soir. D'ailleurs, le soir, il récitait 50 ave en faisant des génuflexions. Il se couchait, dit-on, sans boire. C'était l'usage à l'époque. En voyage, il continuait de dire ces heures-là, là, ces prières de type sacerdotal ou monastique. Il s'arrêtait dans les églises si longuement, dit-on, que les gens s'impatientaient. Et je les comprends, au fond. Il me semble qu'il exagérait un peu, soit dit entre nous, là, je veux pas blesser les susceptibilités, je suis en train de parler d'un grand saint. Aux grandes fêtes, la lenteur de l'office ennuyait bien des gens, mais pas lui. Le roi se privait volontiers, lui, de toutes sortes de choses. Il se privait des primeurs, vous savez, les fruits nouveaux, tout ça, les gros poissons comme les brochets. Il aimait bien ça, mais il s'en privait. En carême, il prenait de la bière, non sans une petite grimace. Il aurait préféré ne pas en prendre, mais il en prenait. Il mettait beaucoup d'eau dans son vin, voire dans les sauces même, que souvent le cuisinier lui préparait avec beaucoup de soin. Ce qui n'était pas très gentil pour le cuisinier, soit dit entre nous, il s'appliquait à ne pas rire, dit-on, le vendredi. Bon, c'est exagéré, je trouve, hein? Et ce jour-là, en souvenir des épines sur la tête du Christ, il sortait sans chapeau. Même quand il faisait froid, il interdisait à ses enfants de se couronner de roses selon l'usage, c'était de l'usage du Moyen-Âge. Il couchait seul, sans sa femme, durant l'Avent, donc les 4 semaines qui précèdent Noël, pendant le carême, donc les 40 jours avant Pâques. Et nombre d'autres nuits où il y avait des fêtes, par exemple celles qui précédaient ses communions même. Il se confessait chaque vendredi. Il portait un cilice, puis il offrait même en cadeau quoi? Des cilices. Ses charités étaient abondantes. Il avait le sourire aux lèvres. Il était d'une très grande bonté et d'une grande joie. Il avait même de l'humour, beaucoup d'humour. Donc c'était pas un saint triste. Il était exigeant comme on pouvait l'être à l'époque. C'est une autre époque. Je vous ai dit qu'il est né il y a près de 800 ans. C'est un autre monde. C'est comme une autre planète. Hein? La Normandie, pays des ancêtres de beaucoup de Québécois, était ruinée. Alors nos ancêtres, en partie, y étaient. Et nos ancêtres, ceux qui viennent de Normandie, ont vu affluer les tonneaux du trésor royal. Les femmes repenties ont eu ce qu'on appelle des filles Dieu, c'est-à-dire des filles et le mot Dieu, comme Dieu. C'est-à-dire donc des religieuses extrêmement dévouées. Les aveugles ont eu les 15-20. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je me suis toujours demandé ce que ça voulait dire. J'ai fouillé, parce qu'il y a un hôpital qui s'appelle les 15-20 à Paris. Je n'ai jamais su pourquoi ça s'appelait comme ça. Eh bien, c'était 15 fois 20, ça fait 300. C'était les 300 aveugles qu'avait recueilli Saint-Louis dans un hospice à Paris, qui est demeuré un hospice, mais qui est devenu un hôpital réputé à Paris, l'hôpital des 15-20. En mémoire de Saint-Louis, qui a à peu près de 800 ans, quoi, que ça s'appelle comme ça. Donc, les aveugles des 15-20, les malades et les hôpitaux même de Pontoise, de Vernon, de Compiègne. Alors, ils s'occupent des pauvres et des délaissés. Le roi invite des mendiants même à sa table. Il les sert, il mange leur reste. Vous direz, c'est pas possible. Mais oui. Il visitait les léproseries. Il aimait soigner les lépreux, les plus répugnants. Il est allé en Palestine, hein? Et là, on dit qu'il a même enterré des cadavres de bêtes, des charognes. Par respect pour les animaux. Il ne voulait pas les laisser là, pourrir à la vue. Il avait donc un sens très moderne du respect des animaux. Mais je ne veux pas insister trop sur les mortifications, là, il ne faut pas exagérer. Il tenait quand même à faire figure de roi. Hein. C'était un pénitent qui était en quête d'une certaine abjection, là. Mais il avait bien dissimulé tout ça. Pas par respect humain, non. C'était pour éviter d'ennuyer les gens autour de lui. Alors il souriait de ceux qu'il trouvait un peu trop pieux. S'il avait perdu deux fois plus de temps à jouer au dé, quand on y pense, ou à faire la chasse à cour comme tant de rois, personne ne s'en serait plaint. Mais parce qu'il était un catholique extrêmement convaincu, et puis que sa chasse à cour, c'était la chasse aux pauvres, et puis au lieu de jouer au dé, il préférait tourner les pages d'un livre de prière, alors on s'en est moqué. Et c'est un peu comme ça dans la vie. Hein? Est-ce qu'il était trop libéral pour les pauvres? Il disait, j'aime mieux que l'excès des grandes dépenses que je fais soit en aumône pour l'amour de Dieu qui, en luxe ou en vaine gloire de ce monde, il aimait mieux ça que de s'intéresser au luxe pour vaine gloire de ce monde. Sa femme trouvait qu'il s'habillait trop simplement. Alors qu'est-ce qu'il a fait à sa femme? Il lui a offert de se vêtir lui-même richement, mais à la condition qu'elle, de son côté, quitterait ses beaux atours pour lui faire plaisir. C'était moqueur, taquin un peu, hein? Mais sa piété était franche et libre. Et après le repas, en manière de récréation, il aimait jaser, là, à botte ton rompu. Il disait un jour à Joinville, qui a écrit sa vie assez longtemps après sa mort, « Sénéchal, dites-moi les raisons pourquoi prud'homme vaut mieux que béguin. Hein? » Autrement dit, pourquoi un gentilhomme, sage et courageux, vaut mieux qu'un dévot, un bigot, quoi. Et c'est ainsi qu'il avait un peu d'humour, et d'autres princes de ce temps-là étaient peut-être aussi vertueux que notre Saint-Louis, comme Henri III d'Angleterre, qui hantait les églises et qui servait aussi les lépreux, mais Louis IX se distinguait par son honnêteté, sa droiture et sa finesse exquise. Puis il aimait les sermons, la lecture de la Bible, les pères, les entretiens théologiques. Puis il a tenu à avoir dans son palais une belle bibliothèque bien fournie, comme je le comprends. Les meilleurs compagnons suivants, ce sont les livres. Je vous ai dit combien il était bon, mais vous savez qu'il y avait des caractères chez lui qui étaient un peu étranges. Je tiens à le dire pour être honnête, hein? Il faut tout dire. Saint-Louis, malgré toute sa sainteté, pensait que les laïcs ne devaient pas discuter avec les mécréants, avec ceux qui attaquaient la foi. Faut dire que dans son temps, les laïcs n'avaient pas les livres qu'on a aujourd'hui. C'était l'époque des manuscrits. Et un manuscrit, ça coûtait très cher. Quand je vous dis qu'il a tenu à avoir dans son palais une belle bibliothèque bien fournie, il n'y a là aucun imprimé. Ça n'existait pas. Gutenberg vient beaucoup plus tard. L'inventeur de l'imprimerie. Alors il déclare, Saint-Louis, et ça me gêne de lire ça, mais je le lis quand même, « Nul, s'il n'est très bon clerc, donc s'il n'est pas un bon religieux ou prêtre, averti des choses de la Bible et de la théologie, ne doit disputer avec ces gens-là. Le laïc, quand il entend médire de la foi chrétienne, c'est terrible, ne la doit défendre que de l'épée, dont il doit donner dans le ventre tant comme elle y peut entrer. C'est effrayant de la part d'un saint d'avoir dit ça. C'est l'époque. Que c'est difficile de se mettre dans la peau des gens d'un autre temps. Il faut bien comprendre. Il disait qu'il ne fallait pas prendre le bien d'autrui, même pour le donner à Dieu. Il disait, car le rendre est si pénible que même... le rendre écorche la gorge à cause des airs qui y sont, disait-il, je ne sais pas ce qu'il veut dire par là, lesquels signifient les râteaux du diable qui toujours tire en arrière vers lui ceux qui veulent rendre le bien mal acquis. En d'autres termes, ce qu'il veut dire dans sa langue d'autrefois, c'est que quand on vole quelque chose, ça fait bien mal d'être obligé de le remettre. De toute façon, la bonté si délicate de ce roi Saint-Louis n'était pas ennemie de la fermeté, du courage, de la grandeur d'âme. Il avait peut-être l'humeur impérieuse, savait se décider avec vigueur, mais il ne mettait pas les conseils utiles. Il avait un grand idéal de gouvernement. D'ailleurs, malade, il disait à son aîné, « Mon beau-fils, je te prie que tu te fasses aimer du peuple de ton royaume, car vraiment, j'aimerais mieux qu'un Écossais vint d'Écosse et gouverna le royaume bien et loyalement que tu le gouvernasses mal. » Alors, gouverner bien, c'était ne rien retenir des biens puis des droits d'autrui. D'après lui, c'était aussi maintenir les sujets, là, les Français, en paix et en droiture. Ne guerroyer contre des chrétiens qu'à la dernière extrémité. Bien gouverner, c'était aussi apaiser les querelles. Il répétait, « Béni soient les apaiseurs, a dit Dieu. » Il fallait aussi enrayer le péché, puis l'hérésie, toujours garder l'unité, je vous ai expliqué ça hier, l'unité du peuple. Il fallait pas qu'il y ait de gens qui croient autre chose que ce qu'il fallait croire. C'était la coutume de l'époque. Il fallait tout sacrifier à l'idéal missionnaire de la croisade. C'est pour ça la croisade. Il fallait reconquérir les lieux saints que les musulmans avaient arrachés aux chrétiens. Ces lieux saints, comme le tombeau du Christ, ou le mont Tabor, ou le Cénacle, etc., ces lieux qui étaient des lieux de pèlerinage extrêmement importants pour tous les chrétiens d'Europe, de la Suède, de la Norvège, de l'Angleterre, de l'Écosse, de la France, l'Allemagne, partout, de l'Espagne, tout le monde songeait à aller faire un pèlerinage là, comme aujourd'hui les musulmans tiennent tant à faire un pèlerinage à la Mecque. C'était cette même mentalité, au fond. Saint-Louis voulait la paix par le droit. Pas d'empêchement sur les droits acquis du prochain. Alors, quand il y avait des prétentions injustes, ou des prétentions nouvelles, il s'opposait à ça avec tranquillité, et toute conquête armée là, lui était odieuse. La croisade malheureuse d'Égypte, qui a eu lieu en 1249-1250, a valu cependant à Louis IX, dans le monde musulman, un prestige incomparable. Oui, il a rencontré les musulmans. Ses vertus était tel que lui, qui était un roi prisonnier, il réussissait à s'imposer, finalement, et ses vainqueurs musulmans l'appelaient le sultan juste. Mais notre bon roi est mort de typhus près de Tunis, donc en Afrique du Nord, chez les musulmans près de Tunis, en Tunisie, le 25 août 1270, c'est pour ça qu'il est fêté le 25 août. Il est mort là dans une dernière croisade. Il avait dit aux envoyés du prince de Tunis, « Je souhaite si vivement le salut de son âme que je consentirai à être dans les prisons des musulmans toute ma vie sans jamais voir le jour, pourvu que lui et toute sa gens, tout son monde, là, deviennent chrétiens. » Il exerçait la justice sous un chêne à Vincennes en banlieue de Paris. Vincennes, ça fait pour ainsi dire partie de Paris maintenant. Il a été le bâtisseur de la Sainte-Chapelle, comme je vous ai dit au début. Ce beau reliquaire transparent, hein, c'est presque tout en verre, construit à des siècles et des siècles, pour garder la couronne d'épines. Eh bien, Ce Saint-Louis reste pour la grande famille française le plus charitable et le plus chrétien de ses chefs. Pour les meneurs de peuple, aujourd'hui, il est un grand modèle de modération malgré tout ce que j'ai pu vous dire. Saint-Louis a été canonisé le 11 août 1297, c'est-à-dire 27 ans après sa mort, par le pape Boniface VIII. Et c'est Guillaume de Saint-Pathus qui a raconté ces miracles. Je vous signale que on peut lire aujourd'hui encore dans des éditions intéressantes la vie de Saint-Louis par Joinville et aussi la vie par Guillaume de Saint-Pathus. Guillaume de Saint-Pathus, dont je viens de vous parler, c'est un franciscain qui était confesseur de la reine Marguerite, sa femme, la femme de Saint-Louis. C'est une vie qui est trop peu connue. Elle est pleine de renseignements précieux et de première valeur. Et puis, j'aime beaucoup ce texte et je vais vous en lire des extraits. Parce que c'est passionnant à lire. Vraiment très intéressant. Alors donc, ce franciscain, Guillaume de Saint-Pathus, se raconte que la reine Blanche de Castille a formé elle-même, c'est le texte, elle a formé elle-même le dit roi comme celui qui devait si grand royaume gouverné, et comme celui qu'elle aimait plus que tous les autres. Il fut nourri bien et saintement par la prévoyance de la dite mère, qui lui enseignait bons exemples et bons préceptes à faire toutes choses qui puissent plaire à Dieu, et par lesquelles un bon prince et bon chrétien peut et doit plaire à notre Seigneur. Elle lui enseignait à fuir les choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Elle lui apprenait à être tout à son devoir d'État. C'est un exemple d'éducation qui devrait toujours exister. Alors, ce jeune prince avait 12 ans, je vous l'avais dit, lorsque son père Louis VIII est mort. Alors la reine Blanche l'a fait sacrer aussitôt. Il a été sacré à ce moment-là. Là, nous sommes en 1228. Et déjà depuis plusieurs années, bien, les franciscains et les dominicains étaient dans la capitale, Paris. Alors on n'est pas étonné de voir la régente, sa mère, Blanche de Castille, après le sacre, comme écrit le moine, après le sacre et le couronnement du roi Louis, le bailler à gouverner et instruire à Jean de vertu, à savoir aux frères mineurs et prêcheurs, quant aux choses spirituelles. Donc elle lui fait fréquenter les franciscains et les dominicains. Pour des choses temporelles, elle l'instruisit elle-même avec le conseil des sages chevaliers et barons de France, et elle lui apprit ainsi à gouverner loyalement, sagement et vigoureusement le royaume. Ce sont des textes authentiques de cette époque. Alors Louis portait à la reine, sa mère, grande révérence et honneur, parce qu'elle aimait et craignait Dieu. Il aimait beaucoup sa mère. Lorsqu'il a gouverné lui-même le royaume, il n'a pas voulu qu'elle s'éloigne de lui, alors il a demandé sa présence et son conseil. Toutes les fois que c'était possible, il est parvenu à l'âge de 14 ans, il aimait à jouer avec ardeur, il allait dans les bois, dans les rivières, mais toujours en compagnie de son maître qui lui enseignait les lettres et qui l'instruisait. Et chaque jour, il entendait la messe et les vêpres. Notre jeune roi a reçu donc une solide éducation, toute d'énergie, exempte de mièvrerie. La reine Blanche de Castille, qui avait un cœur et une foi robuste, a veillé avec grand soin à l'éducation de son fils. Et la piété de Louis était franche et directe. Dieu était son suzerain, comme on dit, puis il lui rendait hommage, puis il aimait se nommer tout simplement Louis de Poissy, puisqu'il est né à Poissy, en souvenir de son baptême, puis il portait le titre de, comme jeune homme, sergent de Jésus-Christ. Jacques Le Goff dit dans cet ouvrage, Saint-Louis est une création de Joinville qui a écrit sa vie, n'est-ce pas, le compagnon de Saint-Louis, qui a écrit plus tard sa vie. Et mais Jacques Le Goff dit bien, au terme de son enquête, l'historien tendance à penser que le modèle ressemblait au héros du livre, quoi, que finalement Joinville ne s'est pas trompé. Je m'inspire, moi, non pas de Joinville, mais de Guillaume de Saint-Pathus. Et alors, nous en sommes rendus au moment où sa mère va mourir. Le jeune roi Louis se prépare donc à commander en pratiquant l'obéissance. Contradictoire, dit-on. Pas du tout pour commander, il faut savoir obéir. Ça a été dit depuis le début et le Christ en a été le modèle. Hein? Il était obéissant jusqu'à la mort. Mais il était Dieu. Il pouvait commander à tout. Il tenait tout. Il tenait tout surtout dans son cœur. Nul n'a été meilleur fils que Saint-Louis, dit-on. C'est ce que nous disent les chroniqueurs du temps. Et autant que Saint-Louis demeurait à Jaffa, comme on dit au pays d'outre-mer, c'est-à-dire en Palestine, eh bien la reine Marguerite, sa femme, a eu une fille que le roi a fait appeler Blanche par amour pour sa mère, appelée Blanche de Castille. Or, un jour est arrivée la nouvelle que la reine Blanche de Castille était morte. Qui le lui annoncit, c'est le légat de Rome. Il a pris le roi à part, puis lui a rappelé les grands bienfaits que notre Seigneur lui avait accordés de sa jeunesse abondamment, en lui donnant une mère comme celle-là. Parce qu'entre autres choses, Dieu lui avait vraiment donné une telle mère qu'il l'avait, comme dit le légat, si dévotement nourrie, et si saintement enseigné, si sagement et si loyalement gardé dans le gouvernement de son royaume. Alors, quand le bon roi Saint-Louis a entendu que sa mère était morte, il a commencé à crier d'abord, parce qu'il l'aimait beaucoup. Il a fondu en larmes, comme le Christ quand il a appris la mort de son ami Lazare. Mais bientôt, en bon chrétien, il s'est mis à genoux devant l'autel, et il a remercié Dieu à main jointe, et c'est très beau sa prière, au moment de la mort de sa mère. Écoutez bien ça, c'est très beau, c'est un modèle pour nous tous. Sire Dieu, on parlait à Dieu en l'appelant Sire, comme un roi. Sire Dieu, je vous rends grâce et merci de m'avoir dans votre bonté, prêté si longuement ma mère, et de l'avoir, par mort corporelle, prise et reçue, suivant votre bon plaisir, en votre paradis. Il est bien vrai, beau et très doux Père de Jésus-Christ, que j'aimais ma mère, par-dessus toute créature, qui fut, en ce siècle mortel, elle l'avait bien mérité. Mais puisqu'il vous vient à plaisir qu'elle soit trépassée, que votre nom soit béni. En d'autres termes, en toutes circonstances, nous devons rendre grâce à Dieu, bénir le nom de Dieu. C'est dit au début des préfaces, je vous le répète, remarquez bien au début des préfaces. Oui, il est bon et juste de te rendre grâce, toujours et en tout lieu. Alors, le légat du pape a récité les prières pour la recommandation de l'âme de la reine Blanche de Castille, et quand le roi Saint-Louis a été seul, il est demeuré, dit-on, en soupir et en larmes. Il a médité un peu devant l'autel, et quand il a eu reçu réconfort de ses prières, il a dit, avec son confesseur, « Tout le service des morts pour bien prier pour sa mère. » Pendant longtemps, il a fait chanter chaque jour une messe spéciale pour le repos de l'âme de sa chère maman. Puis il y assistait à la messe. En 1234, le 27 avril, il avait 20 ans, le jeune roi avait atteint sa majorité. Là, je vous parle de Saint-Louis, on recule dans le temps, en tant qu'époux. Hein? Alors le jeune roi, qui est majeur, épouse donc Marguerite, dont il a été question quelquefois, puisque je vous ai dit qu'elle avait mis un enfant au monde, qu'il a appelé Blanche. Alors, c'était une jeune fille énergique, fille de Raymond Béranger, comte de Provence. C'était un mariage politique. C'était l'œuvre, qu'on peut dire, de Blanche de Castille, sa mère. Mais c'était aussi, par bonheur, un mariage d'amour. Alors, les deux jeunes époux se sont aimés, vraiment. Et la reine-mère, Blanche, en a conçu un petit peu de jalousie. Alors, Joinville, l'historien, nous raconte à ce sujet toutes sortes d'histoires. Il raconte à un moment donné, la reine Blanche ne voulait pas souffrir autant qu'elle le pouvait, que son fils fût en compagnie de sa femme, si ce n'est que le soir, quand il allait coucher avec elle. L'autel, H-O, accent circonflexe, l'autel là où il plaisait le plus de demeurer, pour le roi et la reine, c'était à Pontoise. Parce que la chambre du roi était au-dessus de la chambre de la reine, au-dessous. Ils avaient accordé leurs affaires ainsi qu'ils tenaient leur parlement en un escalier à vis qui descendait d'une chambre à l'autre. Ils avaient leur affaire arrangée ainsi que quand les huissiers voyaient venir la reine en la chambre du roi son fils, ils frappaient la porte de leur verge et le roi s'en venait courant en sa chambre pour que sa mère l'y trouvât. et ainsi faisaient à leur tour les huissiers de la chambre de la reine Marguerite. Alors on voit quel procédé la reine Blanche utilisait pour toujours avoir son fils à sa disposition pour discuter de différentes questions avec lui. Je vous fais grâce de toutes sortes de d'événements. De toute façon, le bon roi n'était pas insensible aux attraits de la beauté. Mais il s'est borné absolument fidèlement, nous dit un de ses hagiographes, ou ses panégyristes, il était fidèle à son épouse, à Marguerite, que Dieu lui avait choisie dès l'âge de 19 ans. C'était le seul objet de son amour. Il était un époux parfait, dit-on, et délicat et attentif. Ça n'a pas été un roi comme bien d'autres qui avaient des maîtresses à la douzaine. Saint-Louis a senti grandir en lui le désir aussi de la solitude des monastères. Mais il suffisait que la reine Marguerite lui exprime son désir qu'il reste avec elle. Et le roi a renoncé à tous ses projets d'aller vivre un peu dans un monastère, comme le roi Philippe d'Espagne, n'est-ce pas, qui s'était fait construire un monastère. Et jusqu'à sa mort, bien, ils ont été très tendres l'un pour l'autre. Comme père, bien, Saint-Louis a pris grand soin de l'éducation de ses enfants, et par ses exemples, par ses enseignements, il les instruit de leurs devoirs. Et chaque soir, il les rassemblait. Puis il étudiait un peu comment ils grandissaient, il écoutait leurs discours, comment ils s'exprimaient, il redressait leurs pensées, cultivait tout ce qu'il pouvait remarquer en eux de bien, de bon, et souvent il leur proposait en exemple les vertus des rois, leurs ancêtres. Vous savez que dans ces familles nobles, on parle beaucoup des ancêtres et des nobles. Je me souviens d'être allé dans un château comme ça, et je montais les escaliers avec un ami qui était un marquis, et il me montrait les portraits de ses ancêtres, il en parlait avec une telle fierté que je me suis dit, c'est curieux, cette fierté, parce que tel son arrière-grand-père avait combattu, s'était conduit comme un saint, etc. Il en était très fier, c'était un catholique d'ailleurs très convaincu. C'était surprenant, hein? Nous on n'a aucunement ça, on n'a pas idée, on n'a pas de portrait comme ça. Alors Saint-Louis leur montrait aussi à ses enfants le sort différent des bons puis des mauvais princes, des mauvais rois, le bonheur ou le malheur de leur règne, puis les encourageait à imiter les qualités des uns puis à fuir les désordres des autres. Quand on relit les enseignements du roi à son fils Philippe, le futur roi de France, puis à sa fille Isabelle, reine de Navarre, on est étonné. Mais on peut les trouver aujourd'hui, en cette fin de siècle, dans le bréviaire, dans ce qu'on appelle la liturgie des heures en 4 volumes que les prêtres et certains laïcs utilisent pour prier tous les jours. Alors à la date du 25 août, qui est la date de la fête de Saint-Louis, aujourd'hui c'est l'anniversaire de sa naissance, hein? Alors à la date de sa mort, on trouve les enseignements de Saint-Louis à son fils aîné Philippe, c'est dans l'office des lectures. Je vous en lis une partie, c'est très beau. Cher fils, oui, cher fils, je t'enseigne premièrement que tu aimes Dieu de tout ton cœur et de tout ton pouvoir, car sans cela personne ne peut rien valoir. Tu dois te garder de toutes choses que tu penseras devoir lui déplaire et qui sont en ton pouvoir. Et spécialement, tu dois avoir cette volonté que tu ne fasses un péché mortel pour nulle chose qui puisse arriver. Et qu'avant de faire un péché mortel avec connaissance, tu souffriras que l'on te coupe les jambes et les bras, et que l'on t'enlève la vie par le plus cruel martyre. En somme, la mort du corps, c'est pas très important comparé à la mort de l'âme. C'est ça un péché mortel, ce qu'il veut dire. On n'en parle plus des péchés mortels aujourd'hui. Mais pourtant, la mort de l'âme, c'est quand l'âme perd espérance volontairement en Dieu, quand elle refuse son amour, quand elle rejette consciemment le désir de mieux faire, quand l'âme se décide à faire le mal pour le mal, à être cruelle et bête, égoïste. C'est ça la mort de l'âme. Saint-Louis ajoute, si notre Seigneur t'envoie persécution, maladie ou autre souffrance, tu dois la supporter débonnairement, et tu dois l'en remercier, voyez-vous, et lui savoir bon gré, car il faut comprendre qu'il l'a fait pour ton bien. De plus, tu dois penser que tu as mérité ceci, et encore plus s'il le voulait, parce que tu l'as peu aimé et peu servir. et parce que tu as fait beaucoup de choses contre sa volonté. Il ajoute, si notre Seigneur t'envoie prospérité, santé du corps ou autre chose, tu dois l'en remercier humblement. Et puis prendre garde qu'à cause de cela, il ne t'arrive pas de malheur causé par orgueil ou par une autre faute, car c'est un très grand péché de guerroyer notre Seigneur et ses dons. Guerroyer notre Seigneur et ses dons, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Cher fils, parle à son fils Philippe, cher fils, je t'enseigne que tu entendes volontiers le service de la Sainte Église. Et quand tu seras à l'Église, garde-toi de perdre ton temps et de parler vaines paroles. Dis tes oraisons avec recueillement, ou par bouche, ou de pensée intérieure. Et spécialement, sois plus recueilli et plus attentif à l'oraison pendant que le corps de notre Seigneur Jésus-Christ sera présent à la messe, et puis aussi pendant un petit moment avant. Cher fils, je t'enseigne que tu aies le cœur compatissant vers les pauvres et envers tous ceux que tu considéreras comme souffrants et de cœur ou de corps. Et selon ton pouvoir, soulage-les volontiers et de soutien moral ou d'aumône. Hein? Vous savez qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, c'est merveilleux, hein, qui s'occupent des pauvres et qui cherchent à travailler pour aider les gens dans les hôpitaux. Ça se fait de plus en plus, c'est intéressant. Ou du moins, ça n'est pas disparu. On le faisait, nous aussi, quand nous étions jeunes. Saint Louis ajoute pour son fils Philippe, « Prends garde que tu sois si bon en toutes choses, qu'il soit évident que tu reconnaisses les générosités et les honneurs que notre Seigneur t'a fait, de sorte que, s'il plaisait à notre Seigneur, que tu aies l'honneur de gouverner le royaume, en d'autres termes de me succéder, tu sois digne de recevoir l'onction, les rois reçoivent une onction avec de l'huile, avec laquelle les rois de France sont sacrés. » Parce que l'huile, c'est le symbole de l'Esprit-Saint, de la grâce de Dieu. Cher fils, s'il advient que tu deviennes roi, prends soin d'avoir les qualités qui appartiennent au roi, c'est-à-dire que tu sois si juste que, quoi qu'il arrive, tu ne t'écartes de la justice. Et s'il advient qu'il y ait querelle entre un pauvre et un riche, soutiens de préférence le pauvre contre le riche, jusqu'à ce que tu saches la vérité. Et quand tu la connaîtras, fais justice. Au besoin, à l'égard du riche, quoi. Sois bien diligent de protéger dans tes domaines toutes sortes de gens, surtout les gens de Sainte Église. Défends qu'on ne leur fasse tort ni violence en leur personne ou en leur bien. Cher fils, je t'enseigne que tu sois toujours dévoué à l'Église de Rome et à notre Saint-Père le Pape, et lui porte respect et honneur comme tu le dois ton Père spirituel. Mets grande peine à ce que les péchés soient supprimés en la terre, en ta terre, c'est-à-dire en France, quoi. C'est-à-dire les vilains serments et toute chose qui se fait ou se dit contre Dieu ou Notre-Dame ou les saints. Et puis, mets grande garde à ce que les péchés de corps, jeux de dés, tavernes et autres péchés ne soient pas présents. Fais abattre tout ceci en ta terre, sagement et en bonne manière. Et il termine en disant, « Cher fils, je te donne toute la bénédiction qu'un père peut et doit donner à son fils, et je prie notre Seigneur Dieu Jésus-Christ que, par sa grande miséricorde, et par les prières, et par les mérites de sa bienheureuse mère la Vierge Marie, et des anges et des archanges, de tous les saints et de toutes les saintes, il te garde et te défende, que tu ne fasses chose qui soit contre sa volonté, et qu'il te donne grâce de faire sa volonté, afin qu'il soit servi et honoré par toi, et puisse-t-il accorder à toi et à moi, par sa grande générosité, qu'après cette mortelle vie, nous puissions venir à lui pour la vie éternelle, afin de le voir, aimer et louer sans fin. Amen. » Saint Louis était donc un roi plein de foi, mais il avait un grand amour de Dieu. Comme un charbon ardent, Saint Louis, dit-on, a été embrasé de l'amour de Dieu. C'est un pieux confesseur de la reine Marguerite qui déclare ça. Qui? C'est celui qui m'inspire pour tous ces textes-là. Ce franciscain du nom de Guillaume de Saint-Pathus, P-A-T-H-U-S. Il enseignait à ses enfants que vous demeurez aimez notre Seigneur Dieu de tout votre cœur, de tout votre pouvoir, je vous l'ai dit. Et il disait, Dieu est le Seigneur à qui toute créature peut dire, « Sire, vous êtes mon Dieu, Vous n'avez besoin de nul de mes biens, si vous voulez que je vous aime. C'est pour moi que vous le voulez. C'est beau ça, je le répète. Hein? Si vous voulez que je vous aime, mon Dieu, c'est pour moi que vous le voulez. Car plus on aime Dieu, plus on est heureux. Tout le bonheur de l'être humain réside, je dirais, dans le degré d'amour qu'il a pour Dieu. Celui qui a peur de Dieu est malheureux. Celui qui craint Dieu dans le mauvais sens du terme, craindre Dieu parce qu'il est méchant, mauvais, vengeur, punisseur, etc., il n'est pas dans le bonheur. Mais celui qui craint de blesser cet amour souverain de Dieu, celui qui craint de blesser le cœur de Dieu qui est si plein d'amour et de tendresse, de miséricorde, si plein de cet amour qu'il nous est narré par Jésus-Christ dans la parabole de l'enfant prodigue où le Père est d'un tel amour pour son fils prodigue, nous sommes tous des filles et des fils prodigues, et nous retournons vers Dieu quotidiennement parce que nous nous éloignons quotidiennement de lui par nos petits péchés ou nos grands péchés, mais Dieu nous reçoit toujours dans ses bras, et au sacrement de pénitence, il nous serre contre son cœur. Saint Louis disait, il est le Seigneur qui envoya son Fils sur la terre. Moult est dévoyé la créature qui a mis l'amour de son cœur ailleurs qu'en lui ou sous lui. Dieu a bien mérité que nous l'aimions, lui qui le premier nous aima. Ayez toujours ce désir présent, à savoir comment vous pourrez plaire le plus à notre Seigneur. Et mettez tout votre cœur à cela. Aimez Dieu par-dessus tout. Rendez-lui grâce et merci de tous ses bienfaits. Eh bien, un roi qui parle comme ça, on est loin de certains personnages qui font les nouvelles depuis quelques années en Angleterre. Quelle tristesse. Le bon roi Saint-Louis ne vit donc que pour son peuple. Il aime Dieu, il aime son peuple. Et à l'intérêt du peuple français, il immole son intérêt personnel. Vous savez, ce fut le roi de nos ancêtres, nous qui venons de France. Il ne fuyait pas le travail, ou quelques fatigues. Il avait beaucoup de devoirs à faire, pas comme des élèves évidemment, mais si, peuple, qui remplissait son devoir d'État qui était énorme. Et c'était pour lui, d'une certaine façon, se délasser que de pouvoir être utile à son peuple. Comme un prêtre, au fond, qui s'occupe de ses paroissiens avec amour, ou un évêque s'occupe des gens de son diocèse, ou une mère ou un père au grand cœur qui s'occupe de ses enfants, ou un patron sincère et vraiment chrétien qui s'occupe de ses employés. Mais c'était un roi comme ça. Et dans le royaume, il voit tout, il entend tout, il préside à tout, il écoute toutes les demandes, il reçoit les plaintes, il juge les causes les plus diverses. Ce saint roi Saint-Louis n'avait pas de préférence, il était tout à tous, parce qu'il était le souverain de tous. Et cependant, bien qu'il se croyait redevable envers chacun, il pensait qu'il était plus encore vis-à-vis des pauvres. C'est pas nouveau, l'option pour les pauvres. Pas nouveau. Ça date du tout début de l'Église. Ça date aussi du XIIIe siècle, comme on le voit. Son temps ne lui appartient pas, Saint-Louis. Dans son palais, en voyage, à l'ombre des forêts, il est toujours le roi. Et on a recours à lui. C'est un homme vigilant. Il voit le juge dans l'exercice de la justice. Il voit le baron à la tête de ses troupes. Lui, il a courage de n'être que roi, mais il l'est pleinement. Il a établi des juges irréprochables. Il voulait que les juges soient honnêtes. Il se réservait le jugement des pauvres comme sa fonction favorite. Et là, comme un père, il soutenait le faible contre le puissant et punissait l'injustice de quelque côté. Il prononçait des arrêts de miséricorde. Il déclarait son fils aîné, « Beau fils, je vous prie que vous vous fassiez aimer du peuple de votre royaume, car vraiment... » Je l'ai lu tout à l'heure, hein? C'est très drôle ce passage-là. « J'aimerais mieux qu'un Écossais vînt d'Écosse et gouvernât le peuple du royaume. » Il disait, « Madame, ma mère, disait de moi qu'elle m'aimait par-dessus toute créature, et que cependant, si j'étais malade jusqu'à la mort, et que je ne pusse être guéri qu'en faisant quelque chose qui fût péché mortel, elle préférerait me laisser mourir, plutôt que de consentir à me voir offenser Dieu mortellement. Vous savez, on connaissait, on nous enseignait ça quand j'étais jeune, que Blanche de Castille disait toujours à Saint-Louis, « Je vous aimerais mieux mort que de faire un péché mortel. » Un jour, le roi a déclaré à Joinville, « Je n'ose vous parler à cause de l'esprit subtil dont vous êtes doué, de choses qui touchent à Dieu. Et pour cela, j'ai appelé ces moines qui sont ici, car je vais vous faire une demande. » Et la demande fut celle-ci, « Sénéchal, qu'est-ce que Dieu ?» Et Joinville répondit, « Sire, c'est si bonne chose que meilleur ne peut être. » Vraiment, reprit le roi, c'est bien répondu. Or, je demande, lequel vous aimeriez mieux, ou d'être lépreux, ou d'avoir fait péché mortel? Et Joinville répond, et moi, qui ont que ne lui menti, je répondis que j'aimerais mieux en avoir fait 30 que d'être lépreux. Et quand les frères furent partis, il m'appela tout seul, me fit asseoir à ses pieds, et me dit, comment m'avez-vous dit cela? Vous parlez sans réflexion comme un étourdi, car il n'y a si vilaine lèpre comme celle d'être en péché mortel. Parce que l'âme qui y est semblable au diable, c'est pourquoi nul lèpre ne peut être si laide. Rappelez-vous que quand l'homme lépreux meurt, il est guéri de sa lèpre. Mais celui qui trépasse, ayant commis un péché mortel, n'est pas sûr qu'il en ait eu un tel repentir que Dieu lui ait pardonné. Je veux pas vous faire peur avec ça, mais sachez bien que le péché mortel, c'est celui que l'on fait en refusant l'amour de Dieu. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut être très conscient. C'est peut-être pas si facile de faire un péché mortel. Je vous rappelle qu'il est mort quand, très simplement, il a accueilli la mort avec la sérénité de Saint François, en chantant les louanges de notre sœur la mort corporelle. Et c'était le 25 août 1270, à 56 ans. Saint Louis, roi de France, roi de nos ancêtres, inspirez nos cœurs ici au Québec pour que nous soyons vraiment disciples du Christ qui est notre roi, à votre exemple que nous suivions les conseils de l'Évangile et que nous soyons au service les uns des autres. Amen.